Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h44 dans le club de la bourse. Aujourd'hui, on est avec Jean-François Robin. Bonjour, directeur de la recherche de Natixis CIB, et Claudia Panseri. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie d'investissement de la banque privée UBS France. Je commence avec nos affaires de banque centrale. On parlera de la BCE dans un instant, mais on a donc Lisa Cook qui, à la Fed, va pouvoir conserver son poste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jean-François Robin, que la Fed, c'est la seule institution à laquelle Donald Trump ne peut pas toucher?
Sur les agences, oui, c'est ce qu'a dit la Cour suprême, hein, c'est qu'il a le droit de virer qui veut, donc la SEC, par exemple, l'équivalent de notre commission bancaire des opérations de bourse, comme on en disait en France. Donc, il peut virer un peu tout le monde, sauf, on touche pas la Fed, qui est l'institution indépendante par définition. Donc, Trump aura pas cette fameuse super majorité qu'il aurait pu avoir et obtenir peut-être des baisses de taux plus rapides. On sait que Kevin Warsh n'a pas donné son opinion sur lors du dernier meeting sur une éventuelle baisse des taux. Et évidemment, s'il remplaçait Lisa Cook par quelqu'un de beaucoup plus pro-Trump, entre guillemets, on peut dire, on aurait peut-être eu un peu plus de pression à la baisse des taux, alors qu'aujourd'hui, la grande majorité du FOMC indépendant pense plutôt qu'il faudra une hausse des taux aux États-Unis, puisqu'on a une inflation qui va plutôt vers les 4% que vers les 2%. Donc évidemment, ce n'est pas une baisse des taux qu'il faut aux États-Unis, et Lisa Cook va rester indépendante. Et ce que dit la Cour suprême, c'est que quand bien même elle aurait des problèmes judiciaires, parce que Trump a dit, j'ai quand même essayé d'aller au bout, de lui chercher des noises, la Cour suprême dit, à partir du moment où ça n'empêcherait pas son indépendance dans son job, ça ne change rien.
Claudia Panseri, vous dites que c'est plutôt une bonne nouvelle de dire qu'il n'y a que la Fed à laquelle on ne peut pas toucher?
Globalement, oui, parce que c'est quand même la banque centrale de référence à niveau mondial, et les taux d'intérêt américains fixent un peu tout, le taux d'échange aussi. Beaucoup des taux d'échange sont mesurés par rapport au dollar, donc le fait d'avoir une banque centrale indépendante permet d'avoir un système des marchés financiers qui est plus stable et donc avec une visibilité qui est certaine.
Pendant ce temps-là, Étienne Braque, on a Christine Lagarde qui, à Sintra, s'est justifiée de sa hausse des taux.
Sintra, Portugal, c'était hier le coup d'envoi de ce grand symposium où d'ailleurs Kevin Warsh sera attendu demain. Et vous avez hier soir Christine Lagarde qui, dans son discours d'introduction, a dit « certains nous ont reproché d'avoir monté les taux au mois de juin en disant que c'était une hausse de précaution, mais pas du tout. Regardez les anticipations d'inflation. Depuis qu'on a remonté les taux, le marché voit moins d'inflation. » En fait, c'est vrai que la BCE a remonté ses taux le 11 juin. Et puis le 15 juin, vous avez eu un accord de cessez-le-feu. Et donc forcément, les cours du pétrole sont remontés. Et puis là, c'est intéressant. On baissait. Lapsus, 8h45. Là, il y a deux minutes, l'INSEE a mis à jour ses prévisions d'inflation pour le mois de juin.
Et vous avez...
1,8%. C'est largement en dessous des attentes. Pourquoi? Parce que là aussi, les cours du pétrole ont baissé. Et donc, ça a eu un impact sur les prix à la pompe.
Claudia Panseri, comment vous regardez ça? C'était un coup pour rien, cette hausse des taux?
Alors, je trouve qu'il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est comme souligné par Madame Lagarde dans le discours à Sintra, l'économie européenne est beaucoup plus résiliente par rapport aux taux vis-à-vis de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Dans le passé, l'économie était complètement intermédiée par le secteur bancaire et donc toute remontée des taux avait un impact sur la croissance. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. On sait exactement qu'une petite remontée des taux ou deux remontées des taux ne vont pas effondrer l'économie. Il y a un deuxième facteur, la Banque Centrale Européenne a un seul mandat, la stabilité des prix. Quand vous avez une croissance qui ralentit mais qui ne s'effondre pas et l'inflation est à des niveaux supérieurs au target de la Banque Centrale de 2%, le fait de remonter les taux ne me paraît pas complètement hors sens. Donc, c'est vrai, beaucoup de gens sont surpris par cette remontée des taux, mais encore, il y a une probabilité de voir une hausse des taux à venir, très probablement le mois de septembre. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est indiqué dans les différents discours des différents gouverneurs de la Banque européenne. Donc, il faut s'attendre très probablement à une autre hausse des taux.
Pourtant, il y a quelques jours, elle avait mesuré un peu ses propos, Étienne.
Oui, lundi dernier à la Commission européenne. Et puis, deux jours après, Isabelle Schnabel a dit non, pas du tout, il faut continuer. Et là, quand vous regardez les anticipations, du coup, ce n'est pas très clair pour l'instant.
Exactement.
Pour le mois de septembre.
Jean-François Robin, c'était un coup pour rien ou pas?
Alors, moi, je pense que dans les marchés, on parle de porte de saloon, c'est-à-dire que vous la prenez à l'aller, puis vous la prenez en retour. Donc là, je pense qu'ils ont corrigé une erreur de politique monétaire en 2022 de remonter les taux beaucoup trop tard lors de la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine. Et là, ils étaient quand même très, évidemment, tous choqués. J'ai déjeuné récemment avec Philippe Laine, qu'on avait dans nos locaux chez Natixis vendredi dernier. Ils étaient très traumatisés par le fait d'avoir laissé l'inflation. Vous disiez très justement, leur job, c'est d'avoir un seul job, c'est de l'inflation inflation à 2%. Quand elle monte à 10,6 en octobre 2022, vous pouvez pas dire que vous avez fait votre job. Donc là, le premier prémisse d'une hausse des taux totalement liée à l'énergie, hein. Encore une fois, c'est bien la définition d'un choc d'offre énergétique, c'est bien ce qui s'est passé en Iran. Là-dessus, normalement, une banque centrale, elle a aucun rôle à jouer. Donc là, ils montent les taux de façon... Moi, je trouve quand même un petit peu... on parlait un peu de preventive hike, ouais. Hein, quelque part. Et moi, je pense que dit que ce n'est pas une hausse des taux assurantielle, quelque part, au cas où. Je pense que ça ressemble quand même beaucoup à ça. Je suis assez d'accord avec la remarque qui a été faite par Étienne, qui est de dire, attention, ils ont monté les taux au moment, juste avant où ça a complètement baissé, où déjà, on parlait un peu de ça. Aujourd'hui, on pourra parler des prix de l'énergie, mais enfin, tous les prix sont en train de se réécrouler. Hein, on parle des engrais, on parle évidemment du
pétrole. Oui, ça a beaucoup rebaissé sur les engrais. Hein.
$15, le gaz qui est revenu à peu près à la normale. Et vous avez les prix des engrais qui étaient les fameux trucs qui venaient aussi du Golfe. Tout d'un coup, on a découvert ça, qu'il y avait 30% de l'urée qui venait du Golfe. Bah, les prix de l'urée aujourd'hui...
Hein, parce que la demande a beaucoup baissé. Hein.
Oui, la demande a baissé, mais justement, parce que mon point sur l'énergie comme sur l'urée, c'est que vous avez quand même un choc sur l'énergie mondiale, donc la demande baisse. Par contre, l'offre surabondante revient. À partir du moment où le détroit d'Hormuz va se réouvrir, vous allez avoir une espèce de réouverture de tous ces flux. Et typiquement, bah, tous les bateaux qui étaient coincés, il y en avait 600 dans le détroit, plein de pétrole.
Mais donc vous
gaz.
Vous dites, à un moment donné, le pétrole, c'est pas 72, il va tomber à 50.
Alors moi, je challenge, vous savez qu'on est dans les tops des classements sur les prévisions de pétrole au niveau mondial, et mon géologue, il me dit, non, on se détend, Jean-François, ça ne baissera pas en dessous de 70-80, parce que tout le monde va vouloir reconstituer ses réserves, etc. Mmh. Mais moi, j'ai quand même un peu un challenge. Je veux dire, à mon avis, le risque du pétrole en 2027, c'est plutôt 50 que 100. On était dans un monde de surproduction de pétrole et de gaz avant la guerre en Iran. On l'est encore plus après, puisque vous avez non seulement des nouveaux producteurs qui sont arrivés, je pense typiquement aux Émirats qui ont dit « je sors de l'OPEP et j'ai passé de 3,4 millions à 5 ». Vous avez la Libye qui dit « je suis déjà au plus haut de ma production depuis 2013 ». Et en plus de ça, vous rajoutez potentiellement l'Iran à qui on va peut-être filer 300 milliards pour qu'ils augmentent leurs infrastructures pétrolières. Et Trump vient d'annoncer qu'ils avaient le droit d'exporter en dollars. Tout ça va faire quand même une surproduction de pétrole. Ouais. À court terme, parce que ça va sortir
du que la demande va peut-être baisser.
Alors que la demande baisse parce que la croissance mondiale ralentit. Et en plus, vous avez cette électrification phénoménale. La Chine consomme beaucoup moins de pétrole.
Ils ont exporté beaucoup moins. Claudia, vous n'êtes pas complètement d'accord sur la Banque Centrale Européenne.
Je ne suis pas d'accord sur l'affirmation que la Banque Centrale a fait une erreur de politique monétaire. Car c'est vrai que la Banque Centrale, via le mouvement des taux d'intérêt, n'impacte pas l'offre. Donc là, on a un choc d'offre. Mais un choc d'offre, un impact sur les attentes d'inflation qui vont se répercuter sur les prix des biens de consommation. Donc, le fait de remonter les taux, c'est une manière pour pouvoir réduire un choc ou une envolée des attentes d'inflation qui pourrait avoir un impact sur un deuxième temps sur les prix. Donc, je pense que la Banque centrale, oui, peut-être est allée très rapidement parce qu'il y avait déjà des négociations en cours, mais elle a fait encore une fois son travail. La stabilité des prix reste très importante. Et puis là, aujourd'hui, on regarde l'inflation en France, qui en général, c'est l'inflation plus basse de la zone euro parce qu'on bénéficie des différentes sources d'énergie. Mais l'inflation en dehors de la France est en général plus élevé. Donc, à la Banque centrale, à plusieurs pays sur lesquels il faut se focaliser. Et donc, je pense que le fait d'avoir remonté les taux, c'était exactement ce qu'il fallait faire au bon moment.
En Espagne, ce n'est pas un 8, l'inflation, c'est au-delà, hein, Jean-François. Alors, oui, certes, la croissance...
pays où qui va peut-être faire 3% de croissance, ouais. Nous annonce le gouvernement espagnol pour des raisons, hein, il parle de 2,6 désormais, nous on est un peu plus prudent. Mais juste pour revenir là-dessus, ce qui est l'énorme différence 2022 et aujourd'hui, justement, je pense que ce qu'on a vu avant la décision de la BCE, c'était que les anticipations d'inflation commençaient déjà à baisser, avec notamment des anticipations du prix du pétrole qui commençaient à intégrer des idées de cesser le feu. Mais surtout l'énorme différence, c'est qu'en 2022, vous aviez quasiment 3% de croissance, on était encore dans le rebond post-Covid, et vous aviez 5 à 6% de hausse salariale un peu partout en Allemagne. Aujourd'hui, c'est quoi la situation ?
Avec une reconstitution de la demande, quoi.
Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, vous n'avez pas du tout ce choc de demande positif qui s'ajoutait au choc d'offres énergétiques liées à l'Ukraine. Mais... là, vous aviez des salaires qui montaient en 2022 de 5 à 6%. Aujourd'hui, les salaires en zone euro, ils baissent. Ils baissent pourquoi ? Parce que vous avez le chômage qui monte en France, qui monte en Allemagne, et donc vous avez plutôt des anticipations salariales. Donc il n'y a pas du tout d'effet de second tour qui ont un peu justifié cette hausse des taux de la
Claudia. BCE. Ouais, là aussi, je ne suis pas trop d'accord, je suis désolée.
Mais ce n'est pas grave.
Mais en fait, ce qui se passe...
C'est deux pour faire marcher.
Mais oui, non, en fait, c'est le fait de voir que les salaires négociés sont quand même indexés à l'inflation et que donc, si l'inflation répare à la hausse, à la place d'avoir des salaires négociés qui rebaissent, ils remontent. Donc, encore une fois, je pense que 25 points base de hausse des taux n'a aucun impact sur la croissance macroéconomique. C'est juste pour garder les attentes d'inflation au niveau, je dirais, à un niveau suffisamment bas pour contenir l'envolée de l'inflation a posteriori. Et surtout, je pense que compte tenu qu'en 2022, la Banque centrale avait été largement critiquée par avoir été très en retard dans le renforcement des politiques monétaires, aujourd'hui, réagit un peu en avant et peut-être maintenant vont faire une pause. Et encore une fois, vous le disiez tout à l'heure, le prix du pétrole ne va pas retomber à 50 dollars le baril non plus. Donc, il y a toute une période pendant laquelle le prix du pétrole peut rester autour des 80. Nous, dans nos estimations pour cette année, on a 80 avant 85 avant qu'il rebaisse l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir quand même un effet du prix du pétrole qui reste dans l'inflation jusqu'au mois de septembre-octobre. Donc, c'est là justifie nos taux.
Moi, je suis d'accord que 25 ne change pas grand-chose, mais si on commence à dire c'est 25, mais en fait c'est 50 en septembre, si vous êtes une petite PME, vos coûts de refinancement, c'est quand même un demi-point de plus.